Bonsoir à tous. Je suis heureuse de retrouver ce soir Stéphane Dufat. Stéphane Dufat qui est le fondateur et le rédacteur en chef de l'agence de presse L'Amena, qui est située vraiment dans le nord du pays à la frontière. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir Emmanuel et bonsoir aux auditeurs et aux auditeurs de Cannes en français.
Voilà, on est ravis de vous retrouver Stéphane pour une analyse un petit peu plus poussée dans notre magazine ce soir. Alors l'actualité tout d'abord c'est ce qui s'est passé cet après-midi à la frontière nord avec ces tirs sur Israël, tirs qui ont été un missile qui a été arrêté par le Dôme de Fer, un missile qui est tombé sur un territoire on va dire vierge,
désert,
et un tir qui est tombé dans la mer si je ne me trompe pas.
Même deux.
Deux dans la mer. Alors Stéphane, les factions palestiniennes qui se trouvent au sud Liban sont nerveuses en ce moment ?
Alors oui, bien sûr, comme en Cisjordanie, comme les Arabes israéliens, ils sont nerveux. Et puis surtout, ils ont ce sentiment, qui leur est propre, de vouloir participer à la bagarre. Ils se sentent lâches s'ils restent les bras croisés. Et si le Hezbollah décidait d'attaquer Israël, il le ferait avec une première salve de 500 ou 1000 roquettes, pas avec 3 ou 4 roquettes, parce qu'il en a les moyens, et parce qu'il voudrait frapper un premier coup très fort, puisqu'ensuite ce serait plus compliqué pour lui. Donc voilà pourquoi, en direct la dernière fois, durant notre dernière interview, j'ai pu dire immédiatement à votre consoeur qui annonçait déjà qu'il y avait eu une frappe du Hezbollah, que ce n'était pas le cas et que c'était probablement les factions palestiniennes. C'est de nouveau le cas, Emmanuel, mais il y a quelque chose de changé tout de même. C'est-à-dire que c'est le Hezbollah qui domine tout le sud Liban et le Hezbollah ne permet pas à d'autres factions de mener leur propre guerre contre Israël. Donc si les Palestiniens l'ont fait, c'est en accord avec le Hezbollah et les résultats, donc ce sont des résultats qui nous dérange, qui nous alerte, qui mettent des soldats en alerte, donc qui mobilisent des hommes, mais qui ne justifient pas l'ouverture d'une guerre parce que cet après-midi, ces roquettes sont tombées, comme vous l'avez dit, hors des agglomérations, sans faire ni dégâts ni victimes. La fois précédente également, elles étaient même tombées en territoire libanais, et la fois d'avant encore. Donc, c'est simplement pour montrer qu'elles font quelque chose, et c'est pas le Hezbollah parce que c'est trop dangereux pour lui, mais ce sont les factions palestiniennes avec l'accord du Hezbollah.
Alors Stéphane, dans votre dernière analyse de l'Amena, on a pu lire de votre part que vous annoncez la victoire militaire de Tsahal sur le Hamas à Gaza.
Oui, absolument, parce qu'on a tous les éléments en main pour le faire, déjà hier, parce que depuis dimanche, le Khel Avir, l'armée de l'air israélienne, bombarde ce qu'on s'est mis à appeler le métro de Gaza, c'est-à-dire ces 150 kilomètres de boyaux souterrains qui cachent les lanceurs de roquettes, qui cachent les stocks de munitions, etc. Et ça fonctionne très bien, dans le sens que près de 80% de ces boyaux ont été éradiqués, près de 100 lanceurs à tête multiple de roquettes ont été anéantis. Ce qui me permet de dire, puisque les infrastructures et les moyens militaires du Hamas en surface avaient déjà été détruits préalablement, ce qui restait au Hamas, c'était effectivement ces roquettes, et ces roquettes, il n'y en a plus beaucoup. Et il n'y en a presque plus, même, enfin presque plus. Il peut y en avoir, à notre avis, encore en milliers, mais c'est pas beaucoup. Et surtout des roquettes à courte portée. Et vous l'avez observé vous-même.
Oui, on ressent qu'il y a un affaiblissement, effectivement, au niveau.
C'est pas seulement un affaiblissement, c'est que depuis dimanche matin à minuit 20, il n'y a pas eu un tir sur le sol d'Israël.
On peut dire que Tzahal a atteint ses objectifs. Selon vous, le chef d'état-major Aviv Kochavi a mené son plan de A à Z comme il avait prévu?
Non, pas tout à fait. D'abord, on a un commandement de Tzahal assez exceptionnel, dont le brigadier général Aviv Kochavi. Et il est allé au-delà de ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que dans son idée, il fallait priver le Hamas de roquettes. Il a déjà détruit tous les ateliers de fabrication de roquettes. Il a éliminé tous les ingénieurs du Hamas qui mettaient au point les roquettes et les nouvelles roquettes. Et il a aussi éliminé, Emmanuel, tous les cadres de la production d'armement et notamment de roquettes. Ce qui signifie que pour Aviv Kochavi, l'essentiel, ce qui était nécessaire de faire pour nous garantir la période la plus longue possible et pour changer le statu quo, c'était de réduire à néant ces roquettes et les lanceurs de roquettes. Maintenant, c'était extrêmement difficile, extrêmement complexe. C'est une des opérations militaires les plus complexes dont j'ai entendu parler. C'est peut-être l'une des opérations militaires les plus complexes de l'histoire, notamment faire voler 200 avions, drones et hélicoptères d'assaut en même temps dans le ciel. En tant que pilote, je peux vous dire que même si on ne tire pas de missiles, c'est terriblement, terriblement compliqué. Et pour répondre directement et franchement à votre question, comme d'habitude, eh bien, Aviv Kochavi est allé plus loin et il est en train de neutraliser totalement. Totalement, ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas quelques centaines de roquettes. Mais cette confrontation, appelons-la comme ça, va se terminer sur un Hamas qui n'est plus capable de menacer les grandes villes israéliennes. Et d'ailleurs, on le voit, Emmanuel, hein, on parle de nombreuses salves, notamment sur Ashdod et Ashkelon, cette nuit et cet après-midi. Il y en a beaucoup, mais notre observateur à Ashkelon nous a appelé pour nous dire qu'on avait tout à fait raison dans notre analyse, parce que vendredi, il y avait 50 à 80 roquettes en même temps qui étaient interceptées dans le ciel d'Ashkelon. Et maintenant, lors de ces attaques, il y en a deux. Il y en a deux, une ou trois. Donc on voit vraiment qu'ils sont au bout du rouleau. Et ça, on le doit à Tzal, à Kochavi, au stratège de Tzal et au pilote à laquelle nous rendons hommage en tant qu'analyste.
Absolument. Alors
Et puis,
justement, Stéphane, il y a une grande
oui.
discussion dans les médias israéliens à savoir combien de temps le Sud sera en paix, Israël sera en paix avec en paix, c'est-à-dire sans ne sera pas menacé. On parle de 1 an, on parle de 5 ans. Selon vous, c'est pour une paix, on aura ce calme pendant une période de combien de temps?
Oui, alors avant de répondre à votre question, on a l'obligation de la précision. Ce qui se passe maintenant, donc vous avez précisé à bon escient qu'on était en pleine discussion pour en cesser le feu et que les rumeurs courent sur une possibilité d'un arrêt des combats demain à 6 h du matin. Alors pour Tzal et Kochavi, ça veut dire seulement une chose. Ça veut dire qu'il faut mettre le paquet maintenant. On est en train de leur servir ce qu'on appelle le septième couvert, c'est-à-dire qu'on est en train d'attaquer à fond le métro. Et comme on l'avait écrit aussi hier à la MENA dans notre analyse, le plus fort de l'attaque se concentre sur le centre et le sud de la bande de Gaza, là où il y a moins de roquettes, puisque c'est plus loin de Tel Aviv et des métropoles israéliennes. Mais jusqu'au dernier moment, et pendant que nous sommes en train de parler, je vous assure que c'est l'enfer à Gaza. Et Kochavi a très certainement, il n'y a aucun doute pour nous à ce sujet, a donné l'ordre de sortir tout ce qu'on a pour essayer de détruire, je dirais, 95%, 97% du métro. C'est assez phénoménal pour qu'on le mentionne.
Et alors, combien de
Alors,
temps, d'après vous, ça va nous aider? D'après vous, on peut envisager du calme pendant 1 an, 2 ans, 5 ans?
Il n'y a pas de paix sans paix. C'est-à-dire que si on voulait tabler sur une tadiya, selon les Arabes, ou une paix, ou une trêve, ou une armistice, selon nous, il faudrait discuter autrement avec le Hamas et se mettre d'accord. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Alors le Hamas n'a pas que des roquettes. Il a aussi des obus de mortier. Sans compliquer, un obus de mortier, ça transporte entre 5 et 10 kilos d'explosifs à 10 à 20 km de l'endroit où on les tire. Mais ils en ont beaucoup.
C'est
Ce
ce
qui est
qu'ils ont
désagréable
tiré
pour eux, c'est...
hier dans la région d'Eshkol, qui a fait d'ailleurs des victimes.
Exactement. Et aujourd'hui aussi, ils n'ont plus de roquettes, mais il leur reste des milliers d'obus de mortier. Ce qui est embêtant pour eux, c'est qu'ils peuvent pas les tirer à partir des tunnels, d'abord parce qu'il n'y a plus de tunnels, puis ensuite parce que pour des raisons techniques, c'est impossible. Donc ils doivent se découvrir et ils perdent énormément de lanceurs de ces mortiers. Les lanceurs, je parle des personnes qui lancent ces mortiers. Mais ils peuvent toujours faire ça, ils peuvent toujours essayer de lancer des drones, ils peuvent toujours lancer ces ballons incendiaires, hein, et c'est pas des armes, etc. Donc, quand on parle de paix, il faut qu'on se mette d'accord de ce, sur ce dont on parle. Et puis, il y
On
a
peut
une autre
parler
chose,
de trêve
c'est-à-dire que,
plutôt, alors. C'est ou
non,
même pas.
on peut parler de presque paix, de presque paix. Maintenant, il y a un autre élément, et l'autre élément, il dépend d'eux. C'est-à-dire que quand leurs chefs vont sortir du métro, eh ben, ils vont pas retrouver d'abord leur maison vide qui a été démolie. C'était une des tactiques de Tsahal pour pas qu'ils soient dans le confort pendant que les autres habitants de Gaza souffrent. Pratiquement toutes les maisons, les villas dans le quartier de Ramal, qui est le Savion de Gaza, et je vous assure que c'est presque tout aussi luxueux. Eh bien, ces maisons n'ont pas existé. Et puis l'étendue de la destruction, très pointilleuse, c'est-à-dire uniquement les infrastructures du Hamas, les dépôts d'armes, les ateliers, etc. En surface, il n'y a plus rien. Et si le métro est également détruit, toute tentative de leur part, ça va être terriblement difficile pour eux, en ayant perdu les ingénieurs, perdu les locaux, en ayant plus de sous, hein, de reconstituer cette capacité de nuisance. Ça va être terriblement difficile pour eux. Mais si c'était un gouvernement normal, occidental ou logique qui était à la place du Hamas, on aurait en tout cas 5 ans sans conflit majeur, parce qu'ils en ont simplement pas les moyens. Et pour réhabiliter une puissance de feu nocive, et ils auront besoin en tout cas de 3 à 5 ans, je dirais même
D'accord.
plutôt 5 ans. Mais ce ne
Steph.
sont pas des, ce ne sont pas des, c'est le Hamas, c'est un califat, c'est pas des gens logiques.
Stéphane, juste pour terminer cet entretien, est-ce que vous pensez que lorsqu'on négociera ce cessez-le-feu, on va pouvoir enfin réclamer les corps de nos soldats et les soldats vivants éventuellement entre les mains du Hamas?
Mais là, on est dans un registre qui est limite pas le mien, mais je suis un être humain, je suis israélien. On ne doit pas cesser le feu sans avoir récupéré les 2 dépouilles de nos soldats et les deux civils vivants qui sont détenus en otage par le Hamas. Ça me paraît pas possible, pas acceptable. Maintenant, il y a une autre chose. En tant que moi, je suis analyste stratégique, j'ai le droit de donner mon opinion. Moi, je n'accepterai pas un cessez-le-feu avec le Hamas. Je dirais simplement aux médiateurs égyptiens, américains et autres que si à partir de demain matin 6 heures, ils s'arrêtent de tirer la moindre roquette, le moindre obus de mortier sur Israël pendant 24 heures, on arrêtera également le feu. Et puis s'ils se mettaient, comme ils ont l'habitude de le faire, 2, 3 jours après, à retirer des roquettes sur le pourtour, eh bien, automatiquement, on reprendrait nos opérations pendant une semaine.
D'accord.
Et je vous assure que ça changerait beaucoup de choses. On n'a
Tout à
pas à faire
fait.
la. Et puis on n'accepterait pas même cette proposition qui passerait. Je suis sûr que les Américains, les Allemands, les Égyptiens l'accepteraient. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas cette offre. Je suis persuadé que dans l'état du Hamas aujourd'hui, le Hamas l'accepterait. Et bien entendu, pour répondre encore une fois directement à votre question, cette offre, je ne la ferai pas. Si, comme première condition, hein, eh bien demain matin à 6 heures, eh bien les 2 dépouilles et surtout les 2 civils
Les deux
israéliens
civils.
vivants ne nous étaient pas rendus. C'est une condition sine qua non.
Merci beaucoup Stéphane Jufa pour cette analyse. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci.
Ce sera toujours avec le même plaisir. Au
Merci, au
revoir.
revoir.